France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le cœur de Venise, la cour du palais ducal. La grande Venise, la salle du grand conseil, l'escalier des géants. Tout est grand dans Venise. Et tout ce que l'on aime à Venise, c'est peut-être le petit, le dissimulé, l'inattendu, le moins visible. Alors on est heureux que l'on nous fasse découvrir les chefs-d'œuvre de l'architecture, de la peinture vénitienne, dans leurs détails. Heure vénitienne, une série de Bronislav Horowitz était consacrée, l'automne 1969 sur France Culture, à Venise, aux différentes Venises, décrites par deux académiciens français. Après Torcello, Rialto et la Piazza San Marco, voici donc le cœur de Venise. Mais les vagues d'une mer en fureur ne sont pas loin, fût-ce en peinture. Heure vénitienne, le Palais Ducal, première diffusion sur France Culture le 30 septembre 1969.
Ô Venise, Venise, quand tes palais de marbre se seront écroulés dans les eaux, les nations se lamenteront sur tes ruines et l'on entendra des cris de douleur au bord de la mer destructive.
Heure vénitienne. Une série d'émissions produites et réalisées par Bronislav Horowitz et enregistrée à Venise par René Huyg et Marcel Briand de l'Académie française.
C'est l'architecture qui dit d'où les hommes viennent. À Venise comme à Saint-Marc, partout l'Orient. Mais il y est soumis à la joie, aux règles, à l'action d'une adorable comédie. Il fait vitrail entre le ciel et la terre, il est musique. Il est conquis dans le royaume de Féerie par des magiciens amis de l'homme libre. Et l'Orient, qui parfois me rebute, me conquiert à Venise parce que je n'ai plus à m'en défendre. Le palais des doges est le désespoir du style et le triomphe de la plus forte fantaisie. Pareil au tabernacle de Sion, il est l'arche sainte portée d'outre-mer depuis le Levant fabuleux jusqu'aux lagunes et laissée sur la rive par les anges pour les Romains des îles. Sur deux étages de colonnes pèse la masse colossale, le cube de marbre rose, image de Venise montée sur pilotis. Et tant de grandeur, tant de puissance gracieuse sur des bases si fragiles. Voilà qui me touche. Que ce mur géant, les deux faces du dé sur la mer et sur la place, a de beauté. C'est un titan plein de grâce, une des plus belles surfaces qu'il y ait au monde. Et comme elle est vivante en sa nudité énorme et rose, semblable à de la chair. Les losanges qui s'incrustent et sur chaque bord les fenêtres ravissantes l'animent d'un rythme grave et charmant. Elle crée ces fenêtres des proportions merveilleuses. Le caprice a les effets d'un goût souverain. On dit de ce mur immense qu'il écrase les galeries inférieures et qu'il les enfonce en terre. Telle est la folie des critiques. Ils reprochent à une œuvre sans pareil ce qui la rend unique. Ils sont prêts à l'admettre telle qu'elle est pourvu qu'elle ne soit pas ce qu'il fallait nécessairement qu'elle fût. Le ravissant étage de la galerie supérieure ne saurait être accablé par le dé qui l'élève, fût-il plus colossal encore, car il ne porte pas sur les colonnes ni sur la galerie, il flotte sur le ciel. La galerie est si pénétrée d'azur, d'air courant et de lumière que le vaisseau rose du palais n'a plus de pesanteur, pas plus qu'un navire sur l'eau, quelque léviathan qu'il paraisse. La nef de pierre flotte en souriant. L'architecture des Vénitiens est unique, comme leur ville. Quelle autre eût mieux convenu à la cité fluide ? Elle est faite pour le mirage d'eau et elle est née de la marine, comme Aphrodite. Ils ont fait pour le mieux qu'on put faire. Ils ont bâti contre la pesanteur. Leurs murs ne sont pas des écrans, mais des filets pour la lumière. Leurs façades sont des mailles à prendre les couleurs et les reflets du jour. Il en est de Venise comme d'une amoureuse en fête.
Et nous sommes maintenant au cœur de Venise, dans la cour du Palais Ducal. Nous avons obtenu, par une faveur dont nous sommes reconnaissants, d'entrer lorsque le public est sorti, et la résonance de la voix dans cette cour indique bien sa solitude reconquise. Il faut imaginer ici toute l'histoire de Venise, évoluant peut-être depuis une construction romaine. Il ne serait pas impossible, certains indices semblent l'indiquer, qu'il y ait eu ici un castellum romain. Et lorsque le doge abandonna Malamocco, parce qu'il était encore là trop exposé aux invasions barbares, il établit ici son premier château, et c'était en 814. Et déjà, les remous qui vont animer l'histoire vénitienne commencent. En 976, c'est une insurrection populaire qui détruit ce premier château. Il est reconstruit, nous retrouvons là Pietro Orsoleo 1 et 2, le début de dynastie des Orsoleo, les Bauges de dynastie, et voici qu'en 1106, c'est un grand incendie, tout est à recommencer à nouveau. Au XIVe siècle, cette forteresse sans cesse remaniée va devenir le palais. C'est le moment de la transition où on passera, et bien prématurément, à Venise. En France, on ne passera de la conception du château à la conception palais qu'avec Louis XIV et Versailles, tandis que l'Italie, dès le XIVe siècle, crée ce passage au palais qui est avant tout d'apparat. Et dans ce palais du XIVe siècle, c'est la Venise que nous connaissons, la Grande Venise, qui s'établira. Tout à l'heure, nous irons dans la salle du Grand Conseil. Et en effet, le Grand Conseil qui succède à l'Assemblée du Peuple, à l'Arengo, va être établi en 1340. Et lorsque l'on fera toute une série de remaniements, on créera de nouvelles salles. Et les premières réunions du Grand Conseil auront lieu en 1419. Ce qu'il y a de passionnant dans ce travail des siècles, et ce n'est pas inutilement que nous suivons les dates qui s'échelonnent au long de cette évolution, ce qu'il y a de passionnant, c'est que ce palais est comme l'image même de Venise qui suit le cours des siècles comme une gondole peut suivre le cours du Grand Canal, sans que jamais il y ait de rupture et avec de vague en vague des passages indiscernables. Quand on voit l'ensemble du palais, quand on entre par exemple, on arrive à la Porta della Carta qui sépare et unit en même temps le palais des Doges et Saint-Marc, qui était primitivement la chapelle des Doges, la chapelle du palais des Doges, la porte est encore en plein gothique. Et puis, aussitôt après, on rencontre l'arc des Foscari, et c'est en effet le doge Foscari qui a marqué de sa griffe la phase nouvelle des constructions et qui va introduire à la Renaissance, en quelque sorte, au début du style Renaissance. Quand nous sommes à l'arc Foscari, nous sommes déjà dans la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et c'est ce mouvement qui va se continuer avec l'escalier des géants qui se trouve dans la continuation de cette entrée et où Rizzo, entre 1484 et 1501, va implanter le style nouveau. Quand nous regardons d'ailleurs la cour, nous voyons cette continuité qui a fait refuser d'ailleurs au Grand Conseil la proposition de rebâtir entièrement à la moderne, sous la direction de Palladio, le bâtiment complet. Les membres du Grand Conseil préférèrent garder le vieux bâtiment qui était l'image même de la continuité de leur histoire. Et quand nous sommes dans cette cour, il est même saisissant de voir que c'est le rez-de-chaussée qui apparaît comme renaissant et qui est surmonté par cette imbrication des siècles, qui est surmonté par un paradoxe visuel, qui est surmonté par une série d'arcs gothiques. Et ces arcs gothiques, ils maintiennent encore la galerie byzantine. C'est la fusion de la galerie byzantine que l'on remarque par exemple à la Cadoro. Et puis on voit sur les murs les lignes droites, les frontons rectilignes, des fenêtres classiques qui s'entremêlent avec les petites fenêtres en arc brisé où les ogives commencent leur mouvement encore un peu sec et anguleux dans certaines, déjà onduleux et maritimes dans les autres. Et tout en haut, ce sont à nouveau ces créneaux qui ne jouent plus qu'un rôle de découpe et de fantaisie pour rompre la rectitude des lignes. Et quand on est dans cette cour, on sent vraiment vivre et en même temps se perpétuer dans le monument et le monument immuable, dans la masse construite, on sent vivre et se perpétuer cette éternelle Venise.
Mais ce paradoxe chronologique que vous venez de remarquer, montrant que l'on partait du sol à la Renaissance, que l'on traversait le gothique et qu'on débouchait dans le byzantin en plein ciel, eh bien, est-ce qu'il ne correspond pas aussi à un autre paradoxe, qui est celui de faire reposer la masse pleine, une masse presque sans air, percée de très rares fenêtres, uniquement, surtout sur la façade extérieure, et même sur cette façade intérieure, où j'en vois très peu, mais sur la façade extérieure, à part le balcon, et deux petites fenêtres complètement asymétriques d'ailleurs, il n'y en a pas. Nous avons donc ce paradoxe d'une masse pleine, en somme d'un cube, d'une sorte de ce grand cube de briques roses et blanches, reposant sur les fines armatures des colonnes blanches. Eh bien, ce paradoxe, on le retrouve en somme dans l'architecture moderne. Est-ce que ce n'est pas aussi celui des maisons actuelles construites sur pilotis, où vous avez d'énormes immeubles reposant sur de très minces pilotis? Et c'est ce que le mot de pilotis est vénitien par excellence, et on peut dire que Le Corbusier s'est peut-être inspiré du Palazzo Ducale quand il a imaginé cette manière de construire, ne pensez-vous pas?
Tu croirais qu'un long, un éternel soupir se prolonge dans ces terres doucement agitées qui vient au-devant de moi, de ces salles où trônaient jadis l'esprit et le plaisir. Venise est tombée, malgré ses défis au temps. La roue de la fortune ne retourne pas en arrière. Vide est le port, rares les bateaux qui s'amarrent le long de la belle riva degli Schiavoni. Tu resplendissais jadis, Venise, telle une de ces femmes fières en robe d'or que peignait Paolo Veronese. Aujourd'hui, le poète s'attarde dans ce palais, s'émerveille de l'escalier des géants et paie le tribut de larmes qui n'a jamais rien changé à rien. August von Platen, traduit par Marcel Brion.
De la cour, nous voilà montés dans la salle du Grand Conseil, et là encore la résonance indiquera l'amplitude de cette salle à ceux qui ne peuvent la voir. Nous avons au passage une pensée émue pour les vénérables sénateurs qui devaient monter ces escaliers que nous venons de grimper et qui nous auraient peut-être coupé le souffle si nous l'avions repris pendant quelques secondes. Cette salle, en effet, est immense, à l'image même de ce conseil de Venise, conseil qui comprenait l'aristocratie, conseil qui même fut fermé par le livre d'or tant le nombre tendait à s'accroître. Et il y a des chiffres qui parlent avec éloquence. En 1254, le conseil était déjà passé à 317 membres. Mais un siècle à peine plus tard, même 90 ans plus tard, en 1340 exactement, ils avaient dépassé le millier. Imaginons donc dans cet énorme volume qui, malgré la hauteur, paraît un peu aplati tant la surface est vaste, imaginons ce nombre de conseillers qui représentaient la direction politique de Venise.
Et plus ils étaient nombreux, naturellement, plus la direction de Venise était difficile et aléatoire. En effet, la politique vénitienne repose à l'origine sur un primat de la démocratie qui était extrêmement beau. En théorie, le doge qui était le chef de Venise, qui était le pouvoir exécutif, devait être élu par le consentement unanime du peuple. S'il n'y avait pas ce consentement unanime, il n'y avait pas élection du doge. On voit donc au début ce magistrat suprême de la République qui apparaît comme l'émanation directe et plénière de la totalité du peuple vénitien, voit petit à petit sa puissance, sinon ses attributions, se restreindre par le jeu de deux forces antagonistes qu'il menace. Ces deux forces sont d'une part l'aristocratie. L'aristocratie riche, puissante donc, active dans les assemblées publiques, pouvant par sa fortune et par son prestige manœuvrer assez souvent les assemblées publiques, et d'autre part la masse du peuple. Cette masse du peuple, en principe, sert de contrepoids dans la lutte du doge contre l'aristocratie, parce que toute l'histoire de Venise, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la chute de la République, a été faite d'un jeu de bascule entre le doge qui essaie de s'approprier des pouvoirs plus étendus que la Constitution ne lui en donne et l'aristocratie qui empiète sur les pouvoirs du doge et qui voudrait que le doge, au lieu d'être un magistrat populaire voué au bien du peuple tout entier, fût uniquement l'agent d'exécution de l'aristocratie. Eh bien, c'est pour cela que l'on a fragmenté cette représentation publique de Venise, qu'après le Major Concilio, le Grand Conseil, dans la salle des séances duquel nous parlons aujourd'hui, il y a eu le Petit Conseil, un Petit Conseil réduit. Il y a eu surtout, à côté du doge, une assemblée de spécialistes, de techniciens, de ce qu'on appelait anciennement en français des prud'hommes, c'est-à-dire des hommes honnêtes, sages, de bonne foi et compétents. Et puis il y a eu, alors il faut bien le dire, il y a eu le fameux Conseil des Dix, sur lesquels le roman, le film, l'opéra a tissé tant d'histoires dramatiques. Le Conseil des Dix, en réalité, était un organisme qui devait veiller à la sécurité de l'État, qui devait veiller, d'une part, à ce que le doge fût respectueux de la Constitution et n'empiétât pas au-delà de ses attributions et de ses pouvoirs, et que d'autre part, le Conseil des Dix devait aussi surveiller les manœuvres de l'aristocratie et empêcher que les conspirations éclatent, et quand il ne pouvait pas empêcher qu'elles éclatent, au moins empêcher qu'elles réussissent. Ce qui est arrivé assez souvent d'ailleurs, l'histoire de Venise est très dramatique, est peuplée d'assassinats, de conspirations, d'exécutions sommaires. On parle de Marino Faglieri qui a été exécuté sur les marches au sommet des marches de l'escalier des Géants, mais ce n'était pas cet escalier-là, c'était un autre qui se trouvait à l'autre extrémité de la cour.
C'est de la Croix qui nous l'a fait croire par son tableau célèbre, mais de la Croix n'était jamais venu à Venise, bien qu'il fût un fils spirituel de la peinture vénitienne.
Oui, il était nourri de peinture vénitienne, mais il n'était jamais venu voir le ciel
vénitien. L'idée venait de Bonington. C'est Bonington qui était venu à Venise et qui avait l'idée de situer l'exécution sur cet escalier, d'où une tradition iconographique que tout le monde maintenant respecte et on évoque toujours cette exécution capitale en haut de ces marches où elle n'a jamais eu lieu.
Il y a une petite étude de Bonington d'ailleurs, il y a un tout petit tableau de Bonington,
un grand tableau de l'école
qui représente l'exécution de Marino Faglieri, et c'est ainsi que perpétuellement tous les touristes qui entrent, qui ont franchi la porte à Della Carta sous laquelle nous sommes passés, arrivant devant l'escalier des Géants, ont l'illusion de voir rouler en bas la tête de Marino Faglieri.
On dit également qu'on intronisait les autres doges à cet endroit pour leur rappeler, comme une sorte de memento mori, que c'est là qu'on avait décapité Marino Faglieri.
Justement, et que s'ils tenaient à leur tête, eh bien, il fallait qu'ils plantent solidement sur cette tête le corno, le bonnet en forme de bonnet phrygien de tissu d'or ou de soie rouge, à moins que le bonnet ne tombe par suite d'une conspiration et que la tête accompagne le bonnet et tombe dedans.
Remarquez d'ailleurs que chaque fois que l'on voit un portrait du doge, et cela était une obligation édictée par la loi, il n'est jamais représenté seul et triomphant comme il apparaissait dans les cérémonies ou au balcon en face duquel nous sommes, mais il était toujours à genoux devant le lion de sa mère. Et c'était une obligation qui lui était faite. Il ne pouvait pas être représenté autrement qu'agenouillé devant la puissance de la ville.
Parce que le doge était, dans une certaine mesure, une sorte de chef spirituel. Le patriarche était le chef religieux. Mais le doge était, dans une certaine mesure, tout en détenant le pouvoir temporel, et encore un pouvoir temporel qu'il ne devait qu'au consentement populaire, qui n'était pas du tout un pouvoir absolu, il ne le devait qu'en tant de ce représentant du peuple par rapport à l'animal héraldique, au totem, si vous voulez, de la race, qui était le lion de San Marco, justement. L'ambition de Marino Falieri ne lui a pas seulement fait perdre la vie, je dois dire qu'elle lui a fait perdre aussi l'immortalité. Parce qu'enfin, dans cette salle du Grand Conseil où nous nous trouvons, il y a une frise qui fait le tour de la salle et qui représente les portraits de tous les doges. Les doges sont deux par deux dans des petits rectangles découpés par des accolades dorées. Et dans un de ces rectangles, nous ne voyons qu'un doge et à côté de lui un grand trou noir. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce grand trou noir? C'est l'immortalité perdue de Marino Falieri, dont on a laissé la place vide après lui avoir ôté la vie.
Mais ce ne sont peut-être pas les peintures les plus importantes de la salle du Grand Conseil. La peinture qui domine, à vrai dire, le Grand Conseil est entièrement couvert de peintures. Il y a juste quelques cadres dorés, fort amples d'ailleurs, qui sinuent au plafond pour marquer la séparation des diverses peintures. Mais on peut dire que la muraille est faite tout entière de peintures. Et parmi ces murs peints, il y en a un qui contient une seule figuration sur toute son étendue, c'est celui qui, par-delà les sièges présidentiels du président et des assesseurs, c'est celui qui contient, qui est couvert par le paradis de Tintoret. En réalité, nous pouvons nous féliciter des incendies de 1574 et de 1577 qui ont détruit les peintures antérieures et qui ont amené cette commande à Tintoret. Et en même temps, nous pouvons le regretter, car il y avait ici un musée également de la peinture italienne antérieure. Au XIVe siècle, on avait fait venir des artistes du nord de l'Italie. Guariento de Padoue avait représenté déjà un Jugement dernier. Gentile da Fabriano lui-même était venu. Mais tous ces peintres ont disparu dans le feu, sauf quelques fragments d'ailleurs que nous avons encore et qui sont dans une salle voisine qui nous montre ce qu'était cette peinture primitive de Guariento. Et maintenant règne la grande peinture de Tintoret. C'est sans doute son chef-d'œuvre, c'est le chef-d'œuvre peut-être, un des grands chefs-d'œuvre de la peinture vénitienne. Et là, nous saisissons ce génie extraordinaire de Tintoret qui nourrit, là encore, de cette tradition qui remonte jusqu'à Byzance, éclate sur l'ouverture nouvelle du baroque. Et dans le baroque, Venise trouvait bien évidemment une expression à ces forces impatientes de toujours fluctuer et se répandre comme les vagues et les flots. C'est en effet une image maritime qu'évoque cette peinture. Et pourtant, il y a Byzance dessous. Regardons-la d'abord. Il y a tout en haut, dans cette confusion, il y a tout en haut une éclaircie au centre, et nous voyons la Vierge et Jésus. Mais à part cette clarté, qui est à peu près comme la trouée ou dans un orage nocturne sur l'océan apparaît parfois à l'astre des nuits, comme disaient les romantiques, à part cette trouée, ce halo de lumière, tout le reste c'est la tempête. Et j'imagine parfois devant cette peinture que je suis en effet la nuit sur l'océan, que je ne distingue plus très bien dans la pénombre, qu'éclaire mal ce halo lunaire transperçant les nuages, je ne distingue plus très bien ce qui est nuage, convulsion de nuées secouées par le vent et convulsion de la mer secouée elle aussi par la même tempête. On a l'impression de voir houler, rouler, se combattre et gicler les remous et les vagues d'un océan en fureur. Et on se dit qu'il y a là une énorme confusion et parfois on se sent un peu écrasé par ce déferlement, cette cataracte. Le tableau, la peinture, car ici on ne peut plus parler de tableau, la peinture représente 150 mètres carrés couverts avec cette furia qui ici n'est plus française mais veneziana. Et dans cette peinture, pourtant, si on regarde, on retrouve toutes les vieilles structures vénitiennes, byzantines, de l'ancienne Venise. Nous avons remarqué dans les coupoles à Saint-Marc que la gloire divine se trouve au centre. Elle est au centre d'une irradiation qui se marque par des rayons qui courent jusqu'aux extrémités de la coupole. Et de même ici, si l'on regarde bien, la répartition des noirs et des blancs crée des sortes de rayons qui ondulent quelque peu. Il y en a en particulier deux, ce qui prouve la volonté de Tintoret, deux qui partent du groupe divin et qui vont rejoindre les angles supérieurs des deux portes latérales qui permettent la communication en bas du mur. Et on peut, comme il est possible parfois dans un carrelage de lire une forme puis une autre, on peut tout d'un coup sortir du chaos et lire cette peinture comme une irradiation. On voit très bien les rayons qui remontent vers le plafond à droite et à gauche, qui ensuite viennent rejoindre l'angle des portes et qui, par endroits, viennent scander la partie au-dessous du Christ et de la Vierge, en particulier dans l'axe, car il y a un axe dans cette peinture tumultueuse. Dans l'axe, il y a comme une coulée de lumière et un ange marque ce vide lumineux. Donc, nous retrouvons le vieux thème de l'ascension, le vieux thème de la Pentecôte. Nous retrouvons cette idée qu'il y a une irradiation et une irradiation circulaire. Car maintenant, nous pouvons lire la peinture autrement. Nous pouvons rechercher des séries de cercles qui, comme les ondes, qui s'amplifient et vont rejoindre les bords d'un bassin lorsqu'on y a fait tomber une pierre au centre. On voit les ondes qui, d'abord très marquées et alternativement claires et sombres, claires quand elles sont des nuées sombres quand elles sont des personnages, encerclent d'une manière serrée le groupe divin tout d'abord avec des battements d'ailes d'ange, puis il y a là un rebord d'écume de nuées et ensuite un deuxième grand cercle qui scande l'ondulation. Et enfin, un troisième grand cercle dont la base vient épouser le dossier présidentiel, vient l'épouser et vient également effleurer le rebord, l'angle des deux portes latérales. Et ainsi, nous retrouvons dans ce génie de Tintoret, c'est ce qui fait peut-être qu'il va au-delà du baroque. Contrairement à ce que l'on croit souvent, nous retrouvons dans ce génie de Tintoret, l'homme complet, qui en fait un des plus grands artistes de l'histoire de l'art, qui n'est même pas encore à sa place reconnue maintenant, nous retrouvons cette conjonction qu'ont eu seulement les plus grands, de la puissance de créer l'ordre, de la puissance de vivre la vie dans son tumulte et dans son infini, et de créer l'ordre à partir de cette richesse et de cet infini.
C'était Heure Vénitienne, le Palais Ducal, une émission produite et réalisée par Bronislav Horovic, enregistrée à Venise par René Huyghe et Marcel Brion de l'Académie française. Texte André Suarez, Auguste von Platen, lu par René Farabet et Maurice Nazil. Première diffusion sur France Culture le 30 septembre 1969. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.